Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard de Seize.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Ligne Droite. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur X, vous pouvez nous écouter sur vos postes de radio, vous pouvez nous écouter dans les bureaux et dans les voitures, debout les Français. Nous reviendrons sur les municipales de Segré avec Jean Eudganan. Le système politico-médiatique est en panique. Nous enchaînerons avec Marc Doyer, dont la femme est morte suite à une injection vaccinale. Va-t-on enfin condamner Pfizer? Ce sera notre grand entretien. Et ensuite, nous en débattrons avec Romain Dominati du Parti Milléiste. Est-ce que le miracle libéral de Milly défie les pronostics ou au contraire est-il un mirage? Et enfin, avec Xavier Aimant, nous analyserons les victoires de la musique, autrement dit les victoires du bon goût. Et nous sommes le 27 février en 1794, pendant les guerres de Vendée. Les républicains des colonnes infernales ont massacré les habitants de la Gaubretière, faisant plus de 100 morts, torturés avant d'être exécutés, de vrais antifascistes. Rappelez-vous, bonnes gens, la gauche n'est pas violente. Mais tout de suite, un petit mot d'actualité avec Magda.
Bonjour Richard et bonjour à tous. En apprenant hier le nom de notre nouvelle ministre de la Culture, rappelons-le avant qu'il ne tombe aux oubliettes de l'histoire, elle s'appelle Catherine Pégard. Proche d'Emmanuel Macron, dont elle était d'ailleurs la conseillère culture, cette macroniste de 71 ans a travaillé avec les meilleurs journalistes politiques durant 30 ans au Quotidien de Paris, puis au Point, elle a été conseillère d'un grand défenseur de la culture française, Nicolas Sarkozy. Mais l'acmé de sa carrière culturelle fut sans doute à la tête du château de Versailles où, dans un des plus grands lieux du patrimoine architectural français, elle avait fait le choix d'accueillir l'exposition « Le vagin de la reine », œuvre d'art contemporaine dont on laissera aux auditeurs les plus braves soins d'étudier minutieusement l'esthétique, jurant tout à fait avec le décor de « Le nôtre ». Après avoir travaillé pour les relations franco-saoudiennes depuis un peu plus d'un an, la voilà donc qui succède à une Rachida Dati lancée dans une difficile campagne municipale à Paris. Mais voyons le bon côté des choses, en un an, Catherine Pégard ne pourra sans doute pas faire trop de dégâts.
Et à propos de dégâts, vous nous parlez des municipales.
Oui, et même d'un certain nombre de villes, beaucoup d'informations assez importantes étant tombées ces derniers jours. Tout d'abord à Marseille, la candidate LR macroniste Martine Vassal s'effondre complètement dans les sondages. Estimée à plus de 25% en début de campagne, elle serait passée à 14%. La faute à son style pécrétien, à son absence de ligne politique, mais aussi à une formule malheureuse sortie dans son grand débat il y a une semaine à Marseille sur BFM TV. On écoute.
Donc vous dites c'est ni LFI,
mérite,
ni
RN. C'est le mérite, le travail, la famille, la patrie. Et effectivement voilà. Aussi, ce qui me différencie de monsieur Alizio, c'est l'humanité.
Vous vous ce
et aussi
dire,
la solidarité qui,
je crois
qui
que vous
va à la personne qui va le mieux.
Non, et vous non
hein
bah,
tout
si,
le monde
j'imagine
l'a entendu,
que c'est ça.
Un virage.
C'est allez-y, un virage. Allez-y, allez-y, allez-y Benoît Payan.
Ah non, je ne sais pas, vous l'avez entendu
répétez-le.
Je crois que vous avez dit travail, famille, patrie.
Oui,
oui c'est le slogan du monsieur Pétain, ça.
Oui, d'accord, mais moi, c'est mon slogan et ce sont mes valeurs.
Ah d'accord, ok.
Ouais, en contrepartie, c'est le candidat RN Franck Alizio qui profite de cette déroute. Il serait désormais estimé à 34% dans les sondages. À Nice maintenant, après plusieurs mois d'omerta, les premières enquêtes d'opinion sortent et sont particulièrement favorables à Éric Ciotti. Celui-ci atteindrait 41% des voix au premier tour et au moins 10 points devant son adversaire de toujours, le macroniste Christian Estrosi. Un vrai tour de force pour le candidat du Bloc National. Et puis, non loin à Menton, bonne nouvelle, la candidate RN Alexandra Masson est elle aussi donnée gagnante, mais encore mieux. Louis Sarkozy, fils de son père et très médiatique candidat, n'atteindrait même pas le second tour à cause de la concurrence à droite, méfions-nous toutefois. Au Havre, on ne lâche pas la bonne humeur, c'est Édouard Philippe qui serait donné perdant. La faute au probable maintien du Rassemblement National au second tour dans la ville. Pour information, Édouard Philippe avait déclaré conditionner sa candidature à la présidentielle à sa victoire au Havre, ça donne espoir. Mais le revers de la médaille serait que le Havre pourrait bien retomber dans l'escarcelle communiste. Et puis enfin, dernière bonne nouvelle à Strasbourg, Samuel Das, candidat de la Jeune Garde à Strasbourg, a retiré sa candidature sous la pression du climat politique actuel. Pour rappel, ce dernier est poursuivi pour violence en réunion et avait appelé à la dissolution du collectif Némésis après la mort de Quentin Derenck.
Eh bien effectivement, un paquet de bonnes nouvelles. Et pour ce qui est de l'international alors ?
Eh bien, 4 ans après le début de la guerre en Ukraine et suite à plusieurs mois d'instabilité géopolitique américaine, Volodymyr Zelensky a déclaré vouloir se remettre à la table des négociations. Début mars aux Émirats Arabes Unis, une nouvelle réunion serait prévue contre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien a même évoqué des progressions dans les négociations de ces derniers jours. Évidemment, la grande absente de ses discours est l'Europe, même pas conviée pour parler de l'avenir de son continent.
Un petit mot de sport.
En tennis, malgré un joli parcours, défaite du français Arthur Rinderknecht en quart de finale de l'ATP 500 de Dubaï face à Andrei Rublev, encore les Russes. Sur le tennis de table, moins d'élégance, le champion français Félix Lebrun a massacré en 3-7 son adversaire et compatriote Flavien Coton à 18 minutes à Strasbourg, à Singapour, pardon. Brutal.
Parfait. Et est-ce qu'il va faire beau alors ce week-end ?
Bien, aujourd'hui, la perturbation progresse dans les terres avec de la pluie des Hauts-de-France aux Côtes-Vendéennes. Du Pays Basque jusqu'en Alsace, c'est le soleil qui s'impose et un ressenti printanier. Côté température, nous attendons pour les maximales de 11 à 19 degrés sur la moitié nord du pays et de 14 à 17 sur la moitié sud avec notamment 11 à Rouen, 14 à Paris, 17 à Biarritz et jusqu'à 19 à Strasbourg. Et nous célébrons en ce 27 février Sainte-Honorine et Saint-Léandre.
Vous nous en direz plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite.
Mais on reste avec vous car vous allez décrypter.
Oui, chers auditeurs, ce mardi 24 février, le procès en appel de Samuel Paty n'a pas seulement rejoint un dossier judiciaire, mais il a montré, il a mis à nu ce que cet assassinat a produit dans l'école en France. À la barre, Joëlle Alazar, enseignante d'histoire-géographie, présidente de l'association des professeurs de la discipline, parle d'un corps enseignant qui a perdu en légèreté, qui travaille désormais dans une vigilance permanente, parfois dans la peur. 5 ans après, le 16 octobre 2020, elle dit ne pas être sûre que la profession se soit relevée. Ce qui signifie que l'effet de l'attentat est toujours là. Les enseignants sont plus prudents. Certains contenus sont abordés avec beaucoup de retenue et on ne parle pas d'une consigne officielle mais bien d'un réflexe de protection. Face à cela, la défense tente de déplacer le centre de gravité. Elle attaque le contenu du cours. Elle qualifie une caricature montrée en classe de problématique quasi pornographique. Elle soutient que Samuel Paty aurait discriminé des élèves musulmans en leur demandant de quitter la salle. Du respect qui se transforme donc en discrimination, avec l'objectif de remettre en cause le comportement du professeur pour relativiser la chaîne des responsabilités. Or, les témoignages entendus à la barre rappellent pourtant des faits précis. Le 8 octobre 2020, l'ancienne principale reçoit Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui. La fille de Chnina venait d'être exclue pour incivilité, retard et refus d'autorité. Et surtout, elle n'était même pas présente lors du fameux cours sur la liberté d'expression. La principale décrit une hostilité immédiate, des demandes de renvoi, des menaces de mobilisation devant le collège, une pression qui était directe. Elle parle clairement d'intimidation. Un inspecteur d'académie intervenu à l'époque confirme que la séquence pédagogique était très bien construite, qu'elle ne posait aucun problème sur le fond. Il qualifie la proposition de sortie faite aux élèves d'acte de prévenance, pas d'exclusion. Il précise aussi qu'avant la diffusion des vidéos, la situation était apaisée dans l'établissement. Cela montre donc un système, un conflit scolaire banal, puis un récit transformé, une pression organisée et la campagne en ligne. Et derrière tout ça, eh bien, une radicalisation qui débouche sur l'assassinat. Les condamnations en première instance étaient de 15 ans et 13 ans de réclusion pour l'association de malfaiteurs terroristes. En appel, la stratégie vise à introduire du doute sur l'intention initiale, sur la bonne foi supposée. Mais les témoins le disent, la pression existait, l'intimidation était réelle et le conflit interne était en voie de résolution avant l'emballement numérique. Ce procès montre aussi que l'école a intégré le risque de façon presque maintenant normalisée. Les enseignants savent désormais que des propos peuvent être sortis de leur contexte, que leurs noms peuvent circuler et que les réseaux sociaux peuvent devenir une arme.
Merci beaucoup Magda. Effectivement, tout devient une arme et surtout l'indécence de ceux qui font appel. Nous allons...
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français, c'est avec Jean-Hugues Gana. Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour Richard, comment allez-vous ?
À merveille, merci, et vous-même ?
Eh bien, écoutez, très bien.
Bah,
très
parfait. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Yves Gana. Nous voulions juste être rassurés. Non, non. Vous êtes candidat à ce gré et on sent que le système médiatico-politique est absolument catastrophé. Pourquoi ? Parce que, à la suite d'une vidéo que vous avez fait montrant des Afghans devant un centre Leclerc, la justice s'est déchaînée contre vous et donc vous êtes menacé des foudres républicaines pour avoir prononcé un discours de haine. Enfin, je rappelle que vous avez juste montré des Afghans, des immigrés afghans assis devant un centre Leclerc, donc on vous a interdit d'aller au centre Leclerc, voilà, car la République n'est jamais avare de mesures intelligentes. Et donc là, les journalistes de Mediapart ont débarqué à Segré et se sont étonnés qu'un futur repris de justice, pour eux, votre condamnation ne fait aucun doute, soit capable de se lancer dans la course aux élections municipales. Et donc on les sent traumatisés à l'idée que quelqu'un qui ait des casseroles puisse concourir pour devenir édile, comme s'il n'y avait jamais eu un seul Antifa élu à l'Assemblée nationale.
Oui, oui, tout à fait. Et je vois là d'ailleurs fleurir sur Internet une liste de mes condamnations ou alors de mes non-condamnations, mais présentées de sorte, vous voyez, à me faire passer pour quelqu'un d'extrêmement sulfureux. Et je tiens d'ailleurs à dire à mes adversaires que je les trouve un petit peu modérés et que je m'étonne de ne pas apparaître encore dans les dossiers Epstein ou... voilà, pourquoi n'ont-ils pas sur moi des histoires de torture en Algérie à raconter? Je les trouve un petit peu mesurés, je dois dire. Et non, mais c'est là, bon, je pense que nos auditeurs connaissent ça, surtout les plus âgés. C'est la très classique diabolisation. Lorsque l'on est en panne d'arguments, on essaye d'inventer une menace qui n'existe pas forcément ou une menace qui n'existe que pour ceux dont les intérêts sont représentés et servis par les institutions.
Voilà. Il faut aussi dire que ceux qui vous reprochent vos non-condamnations ou même vos condamnations ont eux-mêmes défendu en permanence des gens qui, dans leur camp, ont été de véritables tortionnaires en Algérie ou en Indochine, et évidemment en trouvant que c'était très bien, puisque c'était à gauche. À ce gré, quelles sont les forces en présence ?
Alors, nous avons aujourd'hui deux listes centristes, une liste qui est étiquetée Horizon et qui est voilà représentée par Geneviève Cocro, qui est donc la dame qui est en place depuis 25 ou 26 ans maintenant, d'abord comme première adjointe aux finances et comme maire désormais depuis 2020. Et nous avons également une liste centriste représentée par Raphaël de la Salmonnière, qui a fait donc la fusion avec quelqu'un et qui disent avoir sur leur liste apolitique, officiellement, des gens de droite et de gauche, etc., et qui nous servent, vous voyez, la soupe centriste assez classique, c'est-à-dire avoir une communication uniquement positive, mais pour du coup ne rien dénoncer, ne rien dire du tout. Voilà, donc je suis seul face au centre, disons, et la gauche ou l'extrême gauche ira voter pour l'une de ces deux listes.
Alors, à ce gré, la maire donc, qui est présente à la tête de la municipalité depuis 2020, vous l'avez rappelé, a-t-elle un bilan qui lui permet d'être positif à ce point-là, ou a-t-elle planqué sous le tapis un certain nombre de problèmes ?
Non, il semblerait qu'elle commence à s'inquiéter un petit peu, puisque jusqu'ici, elle ne faisait pas campagne. Et là, je vois fleurir une page Facebook. Peu à peu, j'ai des échos comme quoi l'équipe en place se mettrait à faire campagne, parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas forcément aimée par les concitoyens et qu'elle ne pourrait pas, comme en 2020, être élue au premier tour à plus de 50%. Segré, en fait, c'est une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est la réunion avec 14 villages en une commune nouvelle qui a fait passer Segré de petite commune de 8-9 000 habitants à une commune de plus de 17 000 qui fait de Segré, en termes de superficie, la huitième commune de France. Voilà, Segré en Anjou bleu, donc le regroupement de toutes ces communes en une seule commune nouvelle, fait que c'est la huitième commune de France en termes de superficie, avec évidemment tout ce qui en découle, à savoir des problèmes de gestion, des problèmes d'opacité, puisque tout est centralisé à Segré, ceci tue évidemment l'initiative locale, le bénévolat qui existe normalement dans les villages, que l'on met plus de 20-25 minutes à aller d'un bout à l'autre de la commune, et que ceci se fait évidemment au détriment du bon fonctionnement et du bon sens. Et on nous avait vendu cette commune nouvelle comme un moyen, vous savez, c'était le super gadget. On va mutualiser tous les moyens et nous allons faire des économies, nous allons rationaliser le budget, nous allons diminuer les frais de fonctionnement. Eh bien, le résultat est le suivant, c'est que les frais de fonctionnement ont augmenté de 16% en 6 ans, un certain nombre des communes déléguées, c'est-à-dire des anciennes communes indépendantes qui ont rejoint ce Grain en Anjou bleu, se retrouvent avec des mairies déléguées qui ne sont pas ouvertes ou trop peu ouvertes pour les gens qui souhaitent aller faire leurs papiers, enfin voilà, accéder aux services normaux d'une commune. Et puis, ceci a énormément mécontenté les gens, car en réalité, ce regroupement, cette fusion de toutes les communes, tout cela s'est fait sans l'avis des citoyens. Donc, je suis le seul, d'ailleurs, à proposer aujourd'hui la défusion de la commune nouvelle. Donc, voilà, au bout de 3 ans, puisque nous allons gagner, je l'espère, je le pense, je le crois possible, au bout de 3 ans, à redresser la barre, à redresser les finances et à rationaliser un petit peu le fonctionnement, nous proposerons, commune par commune, un référendum pour sortir de la commune nouvelle. Et ceci s'est fait à plusieurs reprises. Ceci a eu lieu dans le Cantal récemment, ça a eu lieu plus proche de chez nous, pas aux Herbiers, quel est le nom de la commune, les Essarts en Vendée. Donc la défusion est possible, ça ne pose pas de grands problèmes particuliers. Et chers auditeurs segréens ou d'ailleurs, si l'on vous raconte une défusion amènerait des nuées de sauterelles, le déluge et le retour des heures les plus sombres, eh bien ne les croyez pas, ça peut se passer très bien.
Et d'ailleurs, voilà, donc cette défusion a été proposée effectivement dans plusieurs endroits, ça a été parfois voté, ça s'est accompli, et en fait, tout se passe comme avant. Merci beaucoup Jean-Eudes Gana, je rappelle que vous êtes candidat au municipal de Segré. Tout à l'heure, à 7h25, nous recevrons Marc Doyer pour parler de son procès contre Pfizer, mais revenons à vous et à la Vendée. Vous vous êtes lancé dans les municipales, parce que ce regroupement sur une immense commune vous paraissait aller à l'encontre en fait des intérêts locaux, parce que le centre est toujours béat d'admiration vers ce qui est de tout ce qui est technocratique. Quel est le moteur essentiel de votre engagement?
Écoutez, il est double. D'abord, je réfléchissais à me présenter à Segré. Et la vidéo avec les Afghans m'a fait connaître ici, m'a donné une notoriété vraiment bien supérieure à ce qu'elle était auparavant, et m'a donc laissé espérer de parvenir à réunir les 69 noms qu'il faut pour se présenter à Segré en Anjou bleu. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, Segré en Anjou bleu, donc cette commune nouvelle, fusion avec 14 villages, nécessite pour se présenter que l'on ait 69 noms, 71 d'ailleurs très exactement, 69 minimum, 71 pour avoir un petit matelas de sécurité en cas de démission au conseil municipal. Et ceci est absolument scandaleux, car en réalité, lorsque vous avez 12 500 électeurs, il ne nous faudrait normalement que 35 à 37 noms pour nous présenter, pour nous monter une liste. Là, il nous en faut autant que pour la ville de Lyon ou pour la ville de Nantes, c'est déjà un déni de démocratie en soi. Bon. Et moi, lorsque la vidéo sur les Afghans a buzzé, que j'ai vu qu'elle recevait un immense soutien populaire, à Segré notamment, eh bien, des amis ont su me convaincre et m'ont dit « Écoute, il faut y aller, c'est le moment. Il y a quelque chose à susciter, un espoir à Segré. Voilà, la colère peut être transformée en quelque chose de plus positif. » Et donc, ça a été ma motivation première, la lutte contre l'immigration, parce que j'ai grandi à Segré et que j'ai vu Segré changer, j'ai vu son visage changer. Et comme je le dis souvent en plaisantant, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais ça a sacrément bronzé à Segré. Et donc, ça a été la première motivation. Et puis évidemment, le déni de démocratie que représente cette espèce de machin technocratique qu'est la commune nouvelle a été un deuxième facteur. Et c'est d'ailleurs la deuxième thématique que je porte le plus volontiers et qui reçoit d'ailleurs le plus d'écho chez nos concitoyens.
Cette vidéo a effectivement eu un grand succès, y compris policiers et judiciaires. Les gens de Mediapart ont interrogé les habitants de Segré en disant « N'êtes-vous pas effrayés à l'idée qu'un possible repris de justice prenne la tête de la ville ?» Est-ce que vraiment les gens de Segré sont catastrophés à l'idée que quelqu'un au conseil municipal soit condamné ou possiblement condamné ?
C'est assez amusant parce que l'intégralité du reportage de Mediapart, en réalité, ils n'ont diffusé qu'un morceau sur les réseaux sociaux. Et dans l'intégralité du reportage, là, ils précisent qu'ils ont essayé d'interroger 22 personnes et que seulement 14 ont accepté de leur répondre. Permettez-moi de penser que sur les 22 personnes, lorsqu'il y en a 14 qui refusent de répondre, c'est-à-dire 8, c'est sans doute des gens qui n'aiment pas trop Mediapart et qui penseraient plutôt comme moi, mais qui en effet ne tiennent pas, vous savez, comme dans les films, nous avons les moyens de vous faire parler, à avoir une grosse caméra à 8 cm du nez et à dire « oui, en effet, je soutiens quelqu'un qui est poursuivi pour racisme ». La question est totalement biaisée, c'est une méthode scandaleuse. À savoir que les gens de Mediapart sont allés voir des gens, parfois âgés, souvent âgés, sur le marché, en leur collant une caméra sous le nez, en leur disant « est-ce que vous allez soutenir un candidat raciste et très méchant ?» Bon, évidemment, dans ces conditions-là, beaucoup de gens disent non, ou préfèrent ne pas répondre, ou disent de manière plus modérée « écoutez, je ne sais pas si je vais le soutenir, mais il a droit de se présenter. » Parce que la question n'était même pas « allez-vous le soutenir ?» c'était « trouvez-vous normal qu'il se présente ?» Bon. Alors oui, Mediapart a fait ça et a laissé passer l'idée que les Segréens n'étaient pas du tout favorables à ce que je me présente. Bien écoutez, je crois que Mediapart ferait mieux de balayer devant sa porte parce qu'il y avait une liste de gauche qui a tenté de se présenter à Segré et qui n'est pas parvenue à réunir les 69, 71 noms pour avoir un petit matelas de sécurité nécessaire pour se présenter. Chose que j'ai réussi tout seul, et je suis le seul d'ailleurs dans l'opposition à être parvenu sans munir à qui que ce soit à faire une liste. Voilà, la seule autre candidate qui est parvenue à cela, c'est Madame Le Maire, c'est l'équipe sortante. Donc, ceci est bien la preuve que Mediapart se trompe, que beaucoup de gens sont tout à fait disposés à ce que non seulement je me présente, mais également à ce que j'exerce les responsabilités de première édile. Et je vais continuer à faire mentir Mediapart dans les semaines à venir.
Et dans les semaines à venir, vous serez évidemment sur les marchés. Là, l'accueil que vous recevez est satisfaisant et vous sentez que vous avez effectivement touché une corde sensible dans le cœur des Segréens.
Oui, je pense. D'abord, j'ai grandi à Segré. Hier, figurez-vous que je suis allé faire du porte-à-porte dans la rue dans laquelle j'ai grandi, la rue de Minguet. Et donc, j'ai été reconnu, j'ai été assez touché d'ailleurs par des petites dames retraitées qui m'ont dit « Ah, mais on se souvient de vous », etc. Elles n'avaient pas dû me voir depuis 20 ans ou 25 ans. J'ai reçu un accueil qui était assez positif. Nous recevons un accueil assez positif, que ce soit sur les marchés ou en porte-à-porte. Et beaucoup de gens sont en effet... assez scandalisé par le traitement médiatique qui est fait, parce que lorsqu'on me connaît, qu'on sait que je suis quelqu'un de plutôt jovial et débonnaire, me dépeindre en petit Goebbels ou en tortionnaire en puissance, si vous voulez, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc je crois que oui, on touche certaines cordes sensibles. Je crois que les scores que nous allons faire vont beaucoup surprendre nos adversaires, et je crois, et ce n'est pas de la langue de bois politicienne, qu'une victoire est possible.
Merci Jean-Luc Gada. Une dernière question, vous êtes revenu sur la constitution de la liste, donc trouver les 69-71 noms, ça s'est fait facilement, vous avez été aidé dans vos démarches?
Alors facilement, non, c'est quand même une gageure que de réunir autant de noms, mais disons que je n'ai pas rencontré les difficultés désespérées qu'ont pu rencontrer d'autres candidats qui les ont incités soit à jeter l'éponge, soit à faire l'alliance de la carpe et du lapin. J'ai été aidé par des amis, par des gens de Segré. Je tiens à en saluer quelques-uns, notamment dans les cités ouvrières à Segré, où en allant voir une dame qui m'a dit « Attendez, allez voir mes voisins ». Et en quelques heures de porte à porte et de voisin en voisin, on est parvenu à réunir parfois dans un même hameau de descendants de mineurs des nombres assez conséquents de colistiers de cette France des oubliés que la gauche méprise totalement tout en essayant de tenir un discours ouvriériste dépassé. Donc, on a rencontré des difficultés parce que c'est long, parce que ça nécessite de faire des bornes, parce qu'il faut convaincre, mais ça n'a pas été une tentative désespérée.
Et avec un peu de chance, ce sera même une tentative réussie. Merci beaucoup Jean-Luc Gada, et bien sûr, on va suivre ce qui se passe à Segré. Je crois qu'un reportage est prévu ou même a déjà été réalisé par Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h24 très précisément. À 8h moins 10, Alexis Poulain se confrontera à Marc Doyer, que nous recevons maintenant dans le grand entretien, pour parler Covid-19, vaccin et Pfizer.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Bonjour Marc Doyer, je crois que vous avez un léger problème de caméra, vous apparaissez décalé de 90 degrés, voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes le porte-parole de Verity France et un visage connu de la lutte des victimes des vaccins contre le Covid-19. Où en êtes-vous de votre procès contre Pfizer ? Je ne sais pas si Marc Doyer m'entend. Alors, je répète ma question. Marc Doyer, vous avez perdu votre femme Morissette, qui a été atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cette maladie s'est déclarée dans les 15 jours suivant l'injection du vaccin contre le Covid-19. Vous avez enquêté, vous avez étudié, vous êtes arrivé à la conclusion que ce vaccin était l'une des causes, voire la cause principale de la survenance de cette maladie. Et vous avez décidé d'attaquer le laboratoire Pfizer. Où en êtes-vous de votre procès contre Pfizer ? Alors bon, je vais continuer à parler. En fait, le Marc Doyer a réussi effectivement à aller en justice. Une association Verity France s'est créée, qui regroupe plusieurs personnes qui jugent avoir été victime de Pfizer et des vaccins. Et nous sommes en train d'essayer de joindre Marc Doyer, que je vois à la caméra, mais qui visiblement ne nous entend pas du tout. On va peut-être essayer de le joindre plutôt par téléphone. Ce qui est intéressant dans le cas de Marc Doyer et de Verity France, donc, c'est que ce sont des citoyens qui ont enquêté et qui peu à peu ont réussi en fait à aller beaucoup plus loin que des journalistes, à aller plus loin que les politiques, puisque par exemple Marc Doyer a réussi à se procurer les contrats qui liaient Pfizer à l'Union européenne et à décortiquer ces contrats, puisque Marc Doyer et d'autres de ses camarades donc ont réussi à faire en sorte que que la justice s'intéresse à leur cas, parce qu'ils ont accumulé un nombre de statistiques impressionnantes sur la survenance de telle ou telle maladie par rapport à la fréquence habituelle, par exemple, de Creutzfeldt-Jakob, et donc l'explosion des cas de Creutzfeldt-Jakob, mais d'autres maladies aussi. Et peu à peu, Verity France, en fait, a réussi à regrouper, comme d'autres associations sont plutôt tournées vers les femmes et les problèmes féminins de menstruation, d'infertilité liés à la prise du vaccin et à ses conséquences. Et on se retrouve aujourd'hui à examiner en justice, justement, la responsabilité du laboratoire Pfizer, avec d'ailleurs plusieurs étapes et plusieurs personnalités juridiques différentes. Donc, Marc Doyer, je crois que nous sommes enfin connectés.
Oui, merci, bonjour. Je suis désolé, je me suis arrêté en voiture, mais des fois la connexion c'est compliqué.
Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Du coup, j'ai bredouillé pendant 5 minutes pour essayer d'expliquer où vous en étiez. Aujourd'hui, vous avez réussi à mettre le laboratoire Pfizer devant la justice et vous avez obtenu une première vraie victoire judiciaire.
Oui, alors déjà c'est important que je dise, je précise à vos auditeurs que moi-même je suis vacciné, hein, donc c'est vrai que ça fait des mois et des années même qu'on fait passer pour anti-vax, mais je suis vacciné, mon épouse était vaccinée malheureusement.
Vous avez même et fait partie des premiers vaccinés.
Voilà, des premiers vaccinés, moi j'ai fait confiance en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aujourd'hui entre guillemets en colère et que je me bats, parce que j'ai fait confiance et j'ai été trompé comme d'autres victimes. Et je voudrais aussi, avant de vous expliquer tout ça, rendre hommage aujourd'hui à Mélanie Maupa, parce que c'est une jeune femme qui est décédée de la maladie Charcot il y a quelques jours et dont les obsèques vont avoir lieu demain à Moulins. Voilà. Et son cas de maladie de Charcot a été reconnu par la pharmacovigilance. Donc c'est important aussi de savoir quand même que tout ce combat n'est pas pour rien et sans raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des éléments graves. Il y a une maladie de Charcot, c'est pas anodin. Et cette jeune femme de 37 ans, elle avait toute la vie devant elle, et elle a fait aussi confiance, elle s'est fait vacciner, et aujourd'hui, elle est morte, en fait. Voilà.
Puisque vous évoquez la maladie de Charcot ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans le cas de votre femme, oui. Il y a quelque chose de tout à fait important, c'est en fait la manière dont ces maladies rares, Charcot, Creutzfeldt-Jakob, ont explosé après justement les injections.
Alors je ne sais pas si ça a explosé, parce qu'il n'y a pas de chiffres forcément, puisque c'est plus facile. Comme ça permet une confusion générale. Ce qui est assez certain, c'est que ça a déclenché des maladies de ce type. pour moi-même, j'ai reçu des dizaines de témoignages suite au décès de mon épouse, de personnes qui, effectivement, ont déclenché la maladie Creutzfeldt-Jakob après vaccination. Et chose très exceptionnelle, c'est que c'est des maladies extrêmement rares. La maladie Creutzfeldt-Jakob, c'est 1,5 cas sur des millions. C'est-à-dire que quand on a plusieurs cas qui, effectivement, se déclenchent après un fait nouveau, c'est-à-dire une nouvelle vaccination avec un nouveau produit, logiquement, on doit se poser des questions. Après, depuis, vous savez, il y a eu des études dans le monde, il y a eu des cas aussi relatés aux États-Unis de Creutzfeldt-Jakob. Enfin, voilà. Par rapport à Pfizer, à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, je suis un des premiers, je pense le premier, à avoir mis devant la justice Pfizer Allemagne et Pfizer États-Unis. Ce qui est important et ce qu'il faut dire à vos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ouvre la voie sur un formidable exploit parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ma procédure il y a quelques mois? C'est que Pfizer a créé un incident de procédure en disant non, mais nous ne sommes pas responsables parce que nous avions terminé au moment des injections, nous avions terminé notre travail et en gros, ils voulaient en fait sortir de la procédure en disant nous ne sommes pas responsables. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le tribunal a dit le contraire. Et ils ont été déboutés de cette demande. Et pourquoi ils ont été déboutés? Parce qu'en fait, le tribunal a décidé que si, ils étaient responsables et que donc l'affaire allait aller au fond. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au mois de mai, les conclusions des différentes parties doivent être remises au tribunal et on va aller plaider devant un tribunal. Alors mon avocat, Maître Ludo, effectivement, et j'ai lu, pour que ce soit plus simple, parce que c'est technique, c'est une procédure qui est extrêmement technique. En fait, ça prouve quoi? Comme je l'ai expliqué, comme l'a écrit mon avocat, c'est qu'en fait, le vaccin était vraiment en phase expérimentale. Donc, M. Macron a menti, M. Véran a menti devant les médias, et c'est très grave parce qu'en fait, il n'y a pas eu donc de choix libre et éclairé. On nous a menti, tout simplement. Donc moi, maintenant, je...
Vous dites que le vaccin était en phase expérimentale parce que, justement, vous avez eu accès à des documents de Pfizer dans lesquels ils expliquent qu'il est en phase 3 d'essais cliniques. Autrement dit, que le développement normal d'un médicament n'est pas abouti par rapport à ce que la loi recommande à l'ordinaire. Mmh. Et c'est ça qui vous permet de dire que vous avez été mal informé, voire trompé.
Et bien sûr, mais et c'est même plus grave que ça, parce qu'en fait, là, vous savez, depuis cette intervention que j'ai faite sur X il y a quelques jours, la vidéo a été extrêmement partagée. Elle est à plus d'un million de vues maintenant, à l'heure où je vous parle. Et les seules critiques que j'ai reçues de toutes les personnes habituelles, hein, des gens proches quand même du gouvernement ou des scientifiques qui défendent la science à tout prix, aux dépens de notre santé, c'est de dire « Ah, mais on le savait que c'était en phase 3, c'était écrit dans les documents. » Mais oui, mais sauf que, en fait, quand le président de la République s'adresse aux Français en disant « Vaccinez-vous, protégez-vous, il y a un vaccin, il est sûr et efficace », à aucun moment il nous dit « Mais il est en phase 3 ». Quand Olivier Véran dit la même chose, il ment. Quand on va au vaccinodrome et qu'on rencontre des médecins, parce qu'on avait la possibilité avant de se faire vacciner, de voir un médecin, nous, on l'a fait avec mon recette. C'est-à-dire que nous, on a demandé à voir un médecin. Et quand j'ai posé des questions au médecin en disant est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que, il m'a dit non, écoutez, il n'y a rien de spécial à vous préciser. Vous allez être vacciné, vous restez en observation pendant 10 minutes, comme des millions de Français. À l'entrée du vaccinodrome, il n'y avait pas écrit attention, vaccin en phase d'expérimentation, en phase 3. Le président de la République, en fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? S'il y avait effectivement mesures d'urgence, une pandémie grave, etc. Mais il fallait le dire, en fait. Il fallait le dire, c'est tout. Et là, effectivement, maintenant, avec cette procédure, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est maintenant que c'est à Pfizer de prouver que ce n'est pas leur vaccin qui a déclenché telle ou telle maladie. Donc, effectivement, ça va être un peu compliqué. Et par rapport au contrat, puisque vous savez, ça fait maintenant des mois que j'alerte avec Frédéric Beltrat, le président de Verity France, nous avons eu accès aux contrats signés avec tous les pays européens, les contrats Pfizer, les fameux contrats Pfizer. Mais qu'est-ce que dit Pfizer, en fait, dans ces contrats? Nous ne connaissons pas l'efficacité, nous ne connaissons pas les effets. Alors là, je ne vous parle pas d'effets secondaires, c'est encore plus grave, les effets en général. Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme et nous ne sommes pas capables de sérialiser le produit. Ça, c'est quelques jours avant que le président de la République s'adresse aux Français pour leur dire « Allez vous faire vacciner, on a un vaccin sûr et efficace ». C'est quelques jours avant le vote du pass vaccinal à l'Assemblée nationale par les députés, avec lequel on a suspendu des professionnels de santé, des professionnels d'ailleurs de différents métiers, des pompiers, etc., etc. En fait, tout ça, c'est beaucoup d'incompétence et beaucoup de mensonges. Et ça débouche sur quoi ? Bah, ça débouche sur, par exemple, il y a quelques jours, le décès de Mélanie Maupa, 37 ans, qui avait toute la vie devant elle et qui aussi a fait confiance. Moi, vous savez, en fait, mais je ne suis pas l'ennemi de la science. Je suis vacciné. Donc, je suis de leur côté, en fait. J'ai fait confiance. Mais on m'a trompé. Et mon épouse est décédée. Pendant 8 mois, ça a été des souffrances physiques et morales pour elle, affreuses. Pour ma famille, pour mon fils, qui a dû assister à des choses qu'il n'aurait jamais dû voir de sa vie. Parce que moi, j'ai choisi de la garder à la maison, parce qu'il est hors de question pour moi de l'abandonner à l'hôpital. Mais j'ai choisi d'accompagner mon épouse dans mon salon sur une maladie qui est affreuse, en fait. Affreuse à gérer déjà par les soignants. Donc, croyez-moi, aujourd'hui, je suis très serein. J'ai une ligne droite, vous voyez, pour faire un mauvais jeu de mots. Et j'ai engagé, effectivement, plusieurs procédures. Verity France en a engagé d'autres. On reçoit plein de témoignages. On va aller au bout. Et là, maintenant, Pfizer, c'est une première, va devoir répondre devant un tribunal. Je rappellerai quand même pour vos auditeurs que ces gens-là ont été condamnés déjà de nombreuses fois, quand même, hein, dans d'autres affaires et pour d'autres produits. Là, il y a quelques. On entend en ce moment des spots de publicitaires de Pfizer, par exemple, pour ne pas citer, sur Radio Nostalgie, ce matin, j'entendais encore, on vantait la vaccination et à la fin, vous entendez ce spot, vous êtes offert par les laboratoires Pfizer. Enfin, c'est dément, en fait. C'est-à-dire que. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont morts, et en France, on n'arrive pas à obtenir un débat, juste un simple débat pour savoir ce qui s'est passé.
Alors, le fait qu'on n'ait pas de débat, c'est sans doute directement corrélé à, vous l'avez dit tout à l'heure, à la manière dont l'ensemble du corps politique, à quelques rares exceptions près, a décidé de faire corps avec le récit d'une guerre contre le virus et donc d'une réaction du président Macron et de toutes ses troupes absolument éclairée, intelligente, nécessaire et efficace. Comment expliquer qu'en France, ce débat ne soit pas possible, alors que partout ailleurs dans le monde, non seulement les revues scientifiques sont en train d'examiner les effets du vaccin et ses effets secondaires, en relevant les effets néfastes, mais qu'on a, non pas un consensus, mais en tout cas, il y a suffisamment de voix discordantes par rapport au récit français. Pourquoi la France est-elle le seul pays, semble-t-il, où on ne peut pas questionner la politique qui a été menée ?
Mais parce qu'en fait, ils ont tellement menti que maintenant, ils sont enfermés dans leur mensonge. Vous imaginez, là, encore une fois, il y a donc ces fameux contrats qui disent « Ben non, en fait, on ne connaît pas l'efficacité. » Et ça, c'est Pfizer qui l'écrit. Là, on apprend aujourd'hui qu'on était en phase 3. Ça reviendrait aujourd'hui à reconnaître, ils ont tout intérêt à mettre ça sous le tapis. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il se présente et qu'il dise « Ben, j'ai menti », ou alors qu'ils disent « je savais pas », mais qui va croire qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans les contrats ? Qui va croire qu'ils ne savaient pas que c'était encore en phase expérimentale ? Ou alors, il est vraiment, c'est pire que pire, c'est même plus de l'incompétence, c'est-à-dire on se demande ce que cet homme fait à la tête de la France. Donc forcément, là, on a tout intérêt, vous savez, moi j'ai été de nombreuses fois critiqué, la dernière fois, j'ai eu droit à une garde à vue, on est venu chez moi, on m'a fait passer pour un dangereux trafiquant d'armes, alors que bon, j'ai jamais menacé personne, j'ai été tout de suite relâché d'ailleurs. Ça a été classé sans suite pour infraction non caractérisée. Mais là, vous rendez compte que depuis maintenant une semaine, j'ai fait cette vidéo où, en fait, c'est très officiel. Je lis un mail de mon avocat qui explique que maintenant, les affaires vont changer, qu'effectivement, il y a une confirmation que c'était en phase expérimentale. Mais tous les médias qui m'ont critiqué, qui m'ont sali, mais il n'y en a pas même un qui est capable, à part des gens comme vous, mais vous ne m'avez jamais sali, vous faites partie des rares médias qui sont capables de prendre des risques parce que vous informez. Mais là, il n'y a personne qui bouge, en fait, parce que c'est une vraie bombe, en fait. Ça consisterait à dire aux Français, on vous a fait injecter un produit expérimental, ce qui est une première quand même, c'est jamais arrivé en France. Et en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc vous avez peut-être d'autres personnes comme Mélanie Maupa qui, à long terme, vont développer des maladies affreuses puisque c'est écrit dans les contrats. Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme. Et vous vous rendez compte que on comprend maintenant aujourd'hui pourquoi Emmanuel Macron lui-même ne s'est pas fait vacciner. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un seul de ces médecins qui prendrait le risque de le vacciner avec un produit où on ne connaît pas les effets, où on ne connaît pas les effets secondaires à long terme, où on ne connaît pas l'efficacité, où c'est lunaire en fait. Donc, je pourrais être beaucoup plus en colère que ça. Simplement, moi j'ai choisi la voie de la justice. Mais effectivement, ces gens continuent de mentir, mais ils ne pourront pas continuer de mentir bien longtemps parce que au fur et à mesure, on a des victoires et au fur et à mesure, effectivement, il y a des reconnaissances. Il y a d'autres cas, je pense à la famille Rio. C'est un jeune homme qui est décédé des suites du vaccin. Au départ, c'est une famille qu'on a fait passer pour des complotistes. Donc, j'alerte, je lance un appel ce matin à tous vos auditeurs. J'espère que les gens comprennent le sens de ma démarche. Moi, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas anti-vax, je suis vacciné. Vous avez quand même des médias en France qui ont osé titrer Marc Doyer représentant des anti-vax. Mais excusez-moi, ou juste qu'ils sont malhonnêtes ou complètement débiles. Je suis vacciné. Enfin, je suis vacciné.
Marc Doyer, donc, merci de ce témoignage. Je rappelle que Alexis Poulain nous rejoint à 8h10 et qu'on pourra continuer avec lui cette conversation. Vous êtes le porte-parole de Verity France. Nous sommes en train de parler de votre cas, mais plus généralement de tous ceux qui sont tombés malades ou qui ont eu un proche qui est tombé malade et qui parfois, hélas, est mort à la suite des injections du vaccin contre le Covid-19. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'avoir été en prison brièvement. Peut-être faudrait-il rappeler aux auditeurs les raisons, en fait, de la manière dont, les raisons pour lesquelles vous avez été interpellé et incarcéré brièvement.
Alors c'est tout simple. Moi, j'ai toujours été intéressé par la chose politique. Donc, il y a quelques années, je faisais partie d'un mouvement citoyen qui était un mouvement citoyen, un mouvement politique, qui était présidé par Jean-Marie Cavada. Et il se trouve que c'était avant la première élection et la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et j'ai côtoyé les équipes d'Emmanuel Macron. Il m'est arrivé de le rencontrer de près ou de loin quelquefois. Et donc j'étais à un moment donné en possession de son téléphone portable personnel. Quand toute cette affaire est arrivée, vous savez, à force d'être critiqué, menacé, sali, de souffrir dans sa chair quand vous avez un être cher qui est à vos côtés malade, gravement malade, ou qui décède, et que vous continuez d'entendre le discours des autorités qui finalement est un discours méprisant. Qu'est-ce que j'ai fait? Un soir, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai laissé un message sur le téléphone portable du président de la République où, en gros, je lui disais mais quand est-ce que vous allez en fait reconnaître qu'il y a des effets secondaires? Quand est-ce que vous allez déclencher une enquête? Quand est-ce que vous allez simplement... Le sens de mon message, c'était de lui dire, mais quand est-ce que vous allez prendre conscience de ça et prendre conscience surtout de la détresse des victimes, des familles de victimes? Et à la fin de ce message, comme c'était au moment où Emmanuel Macron avait fait faire une photo officielle par la photographe de l'Élysée, où on le voyait avec ses gants de boxe et ses muscles photoshopés. Vous devez vous souvenir de ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui l'a diffusé. Je terminais par un trait d'humour en disant, parce que j'aimerais bien que vous preniez position avant de faire un combat contre M. Poutine, parce que je pense que vous allez vous prendre un uppercut et que vous n'allez pas faire long feu. M. Macron a voté, a porté plainte contre moi pour menace de mort suite à ce message. Je me suis retrouvé donc un matin avec une vingtaine de policiers, la police criminelle de Paris, le service antiterroriste, qui sont arrivés chez moi à 6h du matin, 15 jours après quand même. Donc, si vraiment j'avais été un dangereux criminel, j'aurais eu le temps de mettre fin au jour de M. Macron. En fait, je n'ai jamais eu cette intention, et surtout, il n'y avait pas de menace de mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de quelques heures, le parquet de Paris a dit « Mais non, c'est pas sérieux tout ça, il n'y a pas de menace ». Donc on m'a libéré pour infraction non caractérisée. Chez moi, ils ont saisi des armes parce que je suis chasseur, donc il y avait des armes de chasse. J'étais en train de déménager, donc elles étaient toutes rassemblées à un endroit. Le parquet a ordonné d'ailleurs qu'on me restitue mes armes déclarées. Il y en avait certaines qui étaient non déclarées, comme beaucoup de Français, les armes de mon grand-père, je veux dire, pas des Kalachnikov, hein, je vous rassure, hein. Des armes de carabines de jardin qu'on achetait à l'époque chez Manu France, qu'on recevait par la poste, enfin, c'est des ridicules. Et malgré ça, le patron de la police criminelle, sur ordre, a écrit au préfet de l'Oise en demandant qu'on me confisque mes armes définitivement, qu'on m'interdise de pouvoir avoir un permis de chasse. Enfin, ça a pris des proportions incroyables. Et là, il y a quelques jours, j'en ai même pas parlé. Le même préfet, enfin le préfet suivant, m'a envoyé un courrier en me demandant si je voulais récupérer mes armes. On m'a obligé à avoir un psychiatre. Le psychiatre, au bout de 5 minutes, me demandait simplement « Bon, je connais votre histoire, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes entouré ?» Et bien sûr, on ne m'avait pas demandé de voir un psychiatre quand j'étais en garde à vue. Hein. Et on a décidé que je représentais un danger à l'ordre public. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Donc, en fait, on veut m'empêcher de me battre, mais vous l'avez dit vous-même, Emmanuel Macron, quand même, quand il a parlé aux Français la première fois, je m'en rappelle, il a dit « Nous sommes en guerre ». Bah moi, aujourd'hui, je suis en guerre et là, je viens de gagner une bataille contre Pfizer. Là, je n'ai pas gagné la guerre, mais j'ai gagné une bataille.
Vous avez évoqué les autres batailles qui sont menées. Voilà, êtes-vous le seul à avoir réussi pour le moment à mettre Pfizer devant la justice ou d'autres associations ont-elles, avec d'autres motifs, réussi à attaquer la forteresse de ceux qui ont mis au point ces injections et qui ont réussi à les vendre à l'Union européenne?
Alors, je pense qu'il faudrait vérifier, mais je pense que réellement en France, là, je suis le premier à avoir attaqué Pfizer, États-Unis et Allemagne. Il y a d'autres procédures en cours. Beaucoup ont choisi d'aller devant l'ONIAM. L'ONIAM, c'est un système où il n'y a pas d'argent, où en fait on méprise les victimes, c'est-à-dire que vous vous retrouvez devant des soi-disant experts, et puis qui finalement, au bout de quelques heures, vont vous dire non, mais c'est pas le vaccin qui est responsable, ou alors ils vont vous proposer pour, par exemple, des femmes qui ont été obligées de se faire enlever l'utérus tellement elles souffraient, parce qu'il y a eu des gros problèmes menstruels. Il faudrait faire appel, par exemple, à l'association Wimonsi, qui vous expliqueront, où là, on va vous dire, on vous propose 2000 euros. Donc voilà, pour ces gens-là, la souffrance d'une femme, l'utérus, l'ablation d'un utérus, ça vaut 2000 euros. Donc vous voyez, voilà. Au niveau procédure, comme je l'ai fait moi, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors, il y a certainement d'autres procédures en cours, d'autres familles qui ont déposé plainte, mais je ne pense pas que ce soit fait comme l'a fait Maître Ludo. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a eu beaucoup de classements sans suite. Moi, c'est ce que cherchait Pfizer, hein, comme d'habitude, hein, à se débiner. Et là, ce qui est important, et vraiment, c'est un formidable espoir, et je suis content, et en plus, sincèrement, pour moi, c'est symbolique. Je suis très ému quand je vous parle de ça parce que je repense encore à Mélanie Mopa. Quand on regarde ses vidéos, mais cette jeune femme, même dans la douleur, elle avait toujours de l'humour. Donc c'est vraiment pour moi très symbolique d'avoir obtenu cette décision, alors que Mélanie là a choisi finalement de mettre fin à ses souffrances. Vous vous rendez compte, à 37 ans. Je voudrais le dire, j'espère interpeller ce matin, mais il y a des gens qui ont du cœur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de politiques qui aient du cœur. Parce que sinon, nous n'en serions pas là. Mais c'est pas anodin, à 37 ans, de choisir d'arrêter de vivre. Parce qu'en fait, la mort va être plus douce que la souffrance dans ce qu'elle vivait ces derniers temps. C'est affreux. Est-ce qu'on peut entendre ça? Est-ce qu'on pourrait enfin m'entendre, nous entendre et nous accorder? Parce que ça permettrait peut-être aussi de sortir du débat. Qu'il y ait enfin, en France, une commission d'enquête parlementaire. Je m'adresse à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est une femme. Voilà. Je voudrais que 5 minutes, elle se projette dans la vie d'une femme qui pourrait avoir la maladie de Charcot, comme Mélanie Maupin. Est-ce qu'on pourrait enfin avoir une commission d'enquête, ce qui permettrait peut-être à nos détracteurs de dire « Vous, vous êtes trompés ». Là, pour le moment, on n'y est pas. Et pour le moment, on ne se trompe pas puisqu'on obtient des résultats. Mais je lance un appel et je le redis, hein. S'il ne bouge pas, il y a bientôt les présidentielles. J'ai émis cette idée qui est toute simple. Hein. Ce n'est pas la peine de vouloir nous couper les réseaux sociaux parce que ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller sur le terrain. Et on est nombreux en France. Et on va s'organiser. Et on va les imprimer, ces contrats, à des millions d'exemplaires. Et moi, je vais prendre une camionnette et je vais aller partout en France. Je vais aller rencontrer les Français. et on va s'organiser. On aura des points de dépôt partout où on imprimera, où on fera envoyer et où on fera distribuer sur le terrain. C'est-à-dire que si les médias mainstream ne font pas leur boulot, bah pendant la présidentielle, nous, on va s'inviter et on va aller les chercher, les responsables. On va les mettre devant la responsabilité. Donc, de toute façon, ils n'y couperont pas. Donc, pour tout le monde, il serait beaucoup plus sain qu'il y ait enfin une commission d'enquête.
Cette commission d'enquête, effectivement, n'a pas été mise en place. Au contraire, depuis 2020, il y a eu à plusieurs reprises, des commissions d'enquête au sens strict du terme, mais des travaux parlementaires qui ont tous abouti, en fait, à exonérer l'ensemble du corps politique de quelque responsabilité que ce soit. Ils sont tous impeccables, suivant leur propre dire, en expliquant que, bien sûr, il n'y a aucune raison de les rendre responsables, qu'à chaque fois, ils ont agi en fonction de l'état de la science. Et d'ailleurs, c'est vrai, il y avait un discours scientifique qui était tenu, évidemment, ils ont choisi celui qu'ils avaient envie d'entendre et celui qui servait leur politique. Avez-vous aujourd'hui confiance dans les politiques en dehors des politiques sanitaires, ou considérez-vous que c'est l'ensemble du politique qui est vraiment sujet à caution et même sujet à défiance?
Bien sûr, mais non, j'ai pas confiance, je vous explique pourquoi. Il y a eu une commission au Sénat, il y a un pharmacien qui s'appelle Amin Ulmine, qui a dit déjà depuis des mois, des années, tout ce que je vous dis aujourd'hui. Il a été viré comme un malpropre, aujourd'hui il peut plus faire son métier, il a plus de revenus, et on a appris il y a quelques temps qu'en fin de compte, c'est sur ordre directement d'Olivier Véran qu'il a été viré, parce que finalement ça plaisait pas Olivier Véran, alors qu'il a été reçu par le Sénat, à minute mine, donc c'est pas un voyou. Donc, mais non, bien sûr que non, que j'ai pas confiance, parce que de toute façon, ils pensent quoi? Ils pensent tous, ils ont tous peur. Là, on est dans une campagne. On a interpellé, nous, avec Vérité France, tous les partis politiques, du RN, en passant par la France Insoumise, les Républicains, les Socialistes, tous, les écologistes, tous, je les ai tous interpellés avec ces fameux contrats. On leur a demandé de l'aide, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Mais ils ont tous peur, parce que c'est un sujet qui est clivant, c'est un sujet qui, d'un seul coup, va faire qu'ils ne vont plus être reçus dans les médias, qu'on va les traiter de complotistes. Donc, bien sûr que non, je n'ai pas confiance. Et en plus, la plupart ont répété le discours, mais sans s'informer. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils ont voté un pass vaccinal, mais est-ce que, je leur pose la question aujourd'hui, là, tous les députés qui sont encore aujourd'hui en place, est-ce que vous avez eu les contrats en main? Parce que croyez-moi, s'ils avaient eu les contrats en main, ils n'auraient jamais voté le pass vaccinal. Donc bien sûr que non, je n'ai pas confiance. Alors je ne vais pas vous dire, il y en a quelques-uns. Je pense à Florian Philippot, je pense à Madame Joron, je pense à Monsieur Dupont-Aignan, qui lui a de nombreuses fois, quand il est député, a demandé une commission d'enquête. Mais c'est sur les doigts d'une main, vous vous rendez compte? Ça se compte sur les doigts d'une main.
Alors, ces gens-là ont fait. Vous n'avez pas confiance en eux. Et vous êtes en train de nous dire que vous êtes nombreux à vous organiser. Et est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau mouvement citoyen? Et est-ce que c'est le prolongement d'engagements antérieurs?
Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai toujours cru avant tout dans les femmes et dans les hommes. Et
sur le terrain. C'est pas évident.
Et dans les associations. Moi, vous savez, je suis issu de ma maman qui est décédée maintenant, qui aurait plus de 90 ans, était une responsable associative importante. J'ai baigné là-dedans. Et donc, je crois plus que tout dans le contact humain. Et les réseaux sociaux, c'est bien, c'est complémentaire, mais il n'y a pas mieux que le terrain. Et on va aller sur le terrain. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller informer à la place de ceux qui n'informent plus. Donc c'est très simple, hein, de toute façon, comme je l'ai dit. Moi, vous savez, on m'a accusé, j'ai jamais fait de cagnotte. Mais là, s'il faut faire un appel au fond pour nous aider à imprimer, pour informer, pas pour aider à enrichir Marc Doyer, non, pour aider à faire justement ce formidable mouvement citoyen où on va faire quoi? On va aller informer, c'est-à-dire que chaque foyer aura dans sa boîte à lettres une copie des contrats. On va appeler ça, je sais pas, l'esprit liberté, l'envie de liberté, envie de vérité. Voilà, ça va être de cet ordre-là. Et croyez-moi, je le dis franchement, c'est pas une menace. C'est d'utilité publique. Et on a les moyens de le faire, parce que je suis soutenu par énormément de personnes, et j'en profite pour les remercier, parce que ça m'a aidé à vivre, à survivre. Et, Et sur le terrain, nous sommes capables d'organiser ça.
Merci beaucoup, Marc Doyer. Restez avec nous. Nous avons joint Alexis Poulain et nous allons pouvoir l'écouter.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Alors, c'est la matinée de tous les dangers. Alexis Poulain vient de raccrocher. ce que je propose, c'est que dès qu'Alexis Poulain est à nouveau avec nous, vous l'envoyez directement dans la conversation sans que je fasse un effort pour l'annoncer. Marc Doyer, vous êtes en ce moment en train de lutter, de continuer cette lutte qui a commencé avec la survenance de la maladie de votre femme. Vous avez interpellé à plusieurs reprises des gens comme le ministre de la Santé, Olivier Véran, et Emmanuel Macron. Vous avez même commenté les déclarations de Ségolène Royal sur l'exploitation politique des drames. Que pensez-vous justement de la manière dont Ségolène Royal prend position sur ce que devrait être une bonne exploitation médiatique ou politique des drames qui surviennent en France ?
Vous parlez de la mort de ce jeune là ?
Exactement. Où Ségolène Royal a été très vertueuse.
En fait, ce qui m'a choqué, c'est que Moi, je pense à la mort d'un jeune, en fait. On peut pas dire ça consistait ça, son message, oui, il est décédé, mais oui, mais. Mais non, en fait, il n'y a pas de oui, mais. C'est comme là, il y a quelques jours, j'ai entendu, c'est un politique, c'est M. Gattio. Pourtant, c'est quelqu'un qui, par moment, m'a soutenu. Mais on peut pas dire des choses pareilles. Il a dit, je crois, oui, mais... Alors, c'est dur pour les parents, parce que le jour même où ils ont découvert la mort de leur fils, ils ont découvert aussi que finalement, je ne vais pas employer les mots qu'il a employés, mais que leur fils était quelqu'un de pas fréquentable, quoi, que c'était quelqu'un de violent, etc. Mais bon Dieu, est-ce qu'on peut simplement, à un moment donné, finalement se taire et respecter la peine des gens et surtout avoir conscience que la vie, c'est extraordinaire, la vie, je veux dire. C'est la douleur d'un décès. On peut pas surfer là-dessus et commenter n'importe comment. Ou alors, il faut mieux se taire. Donc, effectivement, tous ces politiques, ils sont en fait, et Ségolène Royal comme d'autres, ils sont hors sol. Vous savez, je pense aussi à Jacques Lang. On apprend que pendant des années, il a vécu au crochet des Français, qu'il a jamais payé une facture, qu'il laissait des ardoises dans les restaurants, qu'au Festival de Cannes, il voulait plus le recevoir parce qu'il payait pas les hôtels. Mais... c'est lunaire. Et ce monsieur-là, pendant quelques jours, il a été reçu des dizaines et des dizaines de fois par des médias mainstream. Mais ça veut dire quoi ? C'est de la complicité ? Non. Ces médias-là auraient dû mettre ça en avant en disant « Mais monsieur Royal, monsieur Lang, en fait, vous êtes juste malhonnête, vous ne payez pas vos factures. C'est difficile. » Et c'est pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, que les gens ne votent plus, que les jeunes ne croient plus dans la politique, parce que vous avez des discours... des prises de parole telles que Ségolène Royal, que d'autres, ils sont complètement hors sol et surtout, ils ne me parlent pas d'intérêt général. Il y a juste l'intérêt de leur petit parti politique. J'appelle ça des partis fonds de commerce, en fait. Il y a trop d'enjeux et je crois d'ailleurs, que c'était M. De Gaulle qui l'avait dit un jour, que le problème de la France, c'était les partis politiques, il l'avait compris. À partir du moment où il y a des intérêts financiers, où il y a la peur absolument d'être réélu, il n'y a plus l'intérêt des Français. Donc, on peut faire différemment, et je pense que de toute façon, ça va finir comme ça. Il y a plein d'actions en ce moment. Je pense à Alexandre Jardin, qui se bat aussi, lui, pour les ZFE. On le voit bien, les gens veulent autre chose. Et je ne suis pas le seul, moi, je n'ai pas compétence à dire si les partis politiques... il faut avoir confiance ou pas. Personnellement, je dis oui. De ce que j'en ai vécu et du drame que nous avons, nous, vécu au sein de Vérité France, il n'y a pas eu de réponse. Et je vous assure, on a écrit à tout le monde. J'ai des échanges. Mon premier, quand mon épouse était encore malade, j'ai été en relation avec M. Véran. J'ai commencé par essayer de demander de l'aide, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelque part un traitement expérimental qui pourrait aider ma femme. Autorisez-nous à l'utiliser. On m'a dit oui, on va regarder. Et puis, j'ai jamais de nouvelles, en fait. Et qu'est-ce que j'ai découvert quelques jours après ? Monsieur Véran en train de faire la fête avec ses amis parce que c'était les municipales. En fait, nos vies n'ont aucune importance pour ces gens-là. Ce qui compte, c'est leur petit intérêt personnel de politique médiocre. La plupart sont vraiment... Mais c'est de la médiocrité. Voilà.
Alors, c'est ce que vous dites rejoint évidemment ce que pensent l'ensemble des Français. Le Cevipof a fait paraître son 17e baromètre de la confiance politique et on se rend compte que les partis politiques sont tout en bas de l'échelle de la confiance qu'on peut accorder à différentes institutions. D'ailleurs, le président de la République est juste au-dessus des partis politiques, dans le baromètre de la méfiance, puisque on a atteint des degrés incroyables. Et les Français disent d'ailleurs que, d'une part, que la démocratie marche mal, qu'il n'y a pas lieu d'être fier de la démocratie française. Ils sont 81% à considérer qu'il n'y a aucune raison d'être fier. Et ce baromètre de la confiance politique est absolument stupéfiant. On se rend compte que c'est tout le système politique qui est rejeté et que la véritable aspiration des Français, c'est d'en revenir à une véritable démocratie directe. C'est-à-dire pas Emmanuel Macron en train de parcourir la France en expliquant qu'il va mener un grand débat ou qu'il va faire en sorte qu'il y ait des cahiers de doléances qu'on a perdu ou qu'on a enfoui ou un grand débat où il est seul à parler. Non, une démocratie directe où on demanderait l'avis des Français et on exécuterait la manière dont ils ont décidé qu'il fallait faire ceci ou faire cela. Et êtes-vous en faveur de ce genre de révolution politique ?
Mais bien sûr, moi c'était le sens même de mon engagement dans les mouvements citoyens. Et au début, quand Macron a monté En Marche, c'était aussi ça sur le papier. C'était on va faire de la politique autrement. Il n'y a rien eu de tout ça. C'est aussi ce que Alexandre Jardin propose. Il propose le RIC, mais il est évident que c'est risqué. Mais en fait, c'est au peuple de décider. Alors, il faut faire des référendums. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de nombreux sujets sur lesquels il faut faire des référendums. De toute façon, on le voit bien. Gouverner et faire de la politique par la force, ça ne fonctionne pas. On a une Assemblée nationale aujourd'hui qui ne marche plus. C'est évident que ce système, cette façon de fonctionner ne marche plus. Donc il faut passer à autre chose. Et de toute façon, il faut effectivement faire des référendums sur de nombreux sujets. La sortie ou rester dans l'Europe en est un. C'est un sujet. On ne peut pas continuellement essayer de faire, entre guillemets, le bonheur des gens malgré eux. Et je dirais qu'en plus, ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a jamais eu autant de détresse en France que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est bien à cause de décisions politiques. Il est évident que ça ne marche plus. De toute façon, les gens ne votent plus. Alors, on en est à la démocratie, mais non, on en est à essayer d'empêcher Marine Le Pen de se présenter. Moi, c'est pas mes idées, Marine Le Pen. Mais vous parlez de démocratie, en fait, c'est aux Français de décider. Je veux dire, s'il y a un vote massif pour le RN ou un vote massif pour tel ou tel parti, bon, bah déjà, il faut être satisfait quand même que les gens continuent de voter, mais il faut respecter ça. Je veux dire, et là, depuis de nombreuses années, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a ce fameux front républicain où finalement, on nous vole les élections et où finalement, bah, le pays continue de s'enterrer de plus en plus. Et il est évident que voilà, ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez, en fait, la présidente du Louvre démissionne il y a quelques jours. Quelques heures après, elle est renommée à un autre poste plus important par le président de la République. Des faits de corruption, des gens incriminés dans des affaires politiques, pas condamnés. Mais tout ça, c'est évident que les Français n'en peuvent plus. Et moi le premier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Pas grand-chose, sauf aller mettre un bulletin dans une urne. Et certains commencent à dire que ça ne sert plus à rien. Mais en attendant, on se retrouve avec des gens qui sont minoritaires au pouvoir et qui continuent de prendre des décisions contre l'intérêt général des Français. J'ai pas la solution, sauf que à mon humble niveau, bon, bah, pour mon combat... moi, je vais aller les voir, les Français. Voilà, je vais aller les voir sur le terrain.
Marc Doyer, justement, revenons à votre combat, donc le combat que vous menez au nom de Vérity France, donc cette association qui s'est créée autour de l'idée de faire la vérité sur le vaccin, de faire en sorte que les gens sachent que ce vaccin contre le Covid-19 avait des effets secondaires et que ces effets secondaires étaient nocifs et qu'on a essayé de taire le fait que ces effets secondaires nocifs existaient et ensuite on a essayé de minimiser la nocivité. Avez-vous l'impression que les Français maintenant ont compris en fait que ce vaccin n'était pas une panacée, mais au contraire une réponse qui ne comporte pas que des effets bénéfiques et que dans la balance risque-bénéfice, justement, les vaccins contre le Covid-19, en tout cas ceux de Pfizer, pouvaient apporter parfois plus de désagréments que de bienfaits.
Mais oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas de notre faute, hein. C'est qu'en fait, les gens se sont. Les Français ont été confiants, comme moi, ils ont fait confiance. Ils sont allés se faire vacciner et un certain nombre ont eu des petits soucis. D'autres, surtout, sont quand même tombés malades de la maladie. Alors, on nous a dit oui, mais ça évite les formes graves. Mais c'est pareil, il n'y a jamais rien qui a prouvé que ça évitait les formes graves. Et puis, en fait, quand vous vaccinez, vous imaginez quand même que c'est encore une première, ça aussi. Vous vaccinez, ça va vous éviter une forme grave. Ben non, en fait, en général, quand on se vaccine, on n'a pas la maladie. Ou alors, vaccinez-vous pour protéger les autres. Ben non, en général, on s'est toujours vacciné pour se protéger soi-même. Donc, et là, on voit bien dans les campagnes vaccinales qui ont été relancées, ça a à chaque fois été un flop. Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que les Français sont quand même des adultes responsables pour la plupart. Et ils ont constaté par eux-mêmes que de toute façon, ça ne les avait pas protégés. Moi-même vacciné, j'ai eu le Covid, en même temps que mon fils non vacciné. J'ai été malade plus longtemps que lui et plus durement que lui. Sa compagne, en même temps, n'était pas non plus vaccinée et ça a été exactement la même chose. Mais je ne suis pas le seul, en fait, à avoir constaté ça. Et vous savez, quand je rencontre des gens, même des gens qui ne me connaissent pas, souvent on en arrive à parler du Covid. J'étais l'autre fois dans un garage, par exemple, et on parle de cette période parce que ce qui en ressort, c'est que il y a eu un avant et un après-Covid. Ça a marqué beaucoup de choses. Pas que sur la vaccination et les effets secondaires. Beaucoup. Ça a marqué notre société. Et ce garage me disait, mais depuis que je suis vacciné, j'ai des petits trucs, bizarres. Voilà. Quand j'étais en garde à vue, vous savez, chez moi, le policier masqué qui vient me voir au bout de 10 minutes et qui me dit, vous savez, depuis que je suis vacciné, j'ai des gros problèmes de tachycardie. Je vous assure que c'est vrai. Et là, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, bon, je pense que ça va pas mal se passer, ma garde à vue, finalement. J'étais encore dans ma cellule. Le policier qui m'interrogeait est venu me voir dans ma cellule, il m'a dit, Monsieur Doyer, vous savez, je comprends votre combat parce que je suis moi-même une victime. J'ai été hospitalisé pendant 3 semaines après la vaccination. Il dit, vous savez, ici, il y a plein de mes collègues qui ont des problèmes, mais on ne peut pas en parler. C'est pas moi, en fait. Et ça, ce que je vous relate là, c'est national. Donc, oui, forcément, il y a eu une prise de conscience. Et c'est grave, parce que moi, encore, comme je vous dis, je ne suis pas anti-science, je ne suis pas anti-vax, j'ai un carnet de vaccination. Mais ça veut dire que si demain, il y avait un réel problème et qu'il y avait vraiment une solution, moi, je suis très inquiet. Parce qu'effectivement, là, maintenant, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'iraient pas par peur et parce qu'on a été trompés. Donc ça, c'est grave. Et ce sont les autorités qui sont responsables de ça. Et directement, à l'époque, Emmanuel Macron et Olivier Véran. Parce que je pense encore une fois que s'ils avaient dit la vérité, ça aurait pu être différent. On pouvait avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais il fallait avoir tous les éléments en main pour pouvoir décider. Ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est grave. Et ça, j'espère obtenir réparation pour ça. Et j'espère que ces gens seront condamnés, y compris Emmanuel Macron. J'ai déposé plainte contre l'Élysée par rapport à ce qui s'est passé dans ma garde à vue. Et j'ai bien l'intention d'aller au bout. De toute façon, moi, je suis droit. Hein. Je veux dire, j'ai rien à me reprocher. Je fais les choses honnêtement. Et ça ira au bout.
Vous faites les choses honnêtement et vous les faites dans les règles. Et c'est sans doute une partie de votre irritation. C'est que quand on agit selon les règles, on a l'impression que ça se retourne contre vous d'une certaine manière.
Oui, mais vous savez, en fait, j'ai vraiment depuis longtemps réussi à surmonter tout ça parce que qu'est-ce qui me fait survivre et qui me donne cette force? Alors, je ne vous dis pas, il y a parfois où j'ai encore vraiment des grands moments de détresse, hein, Mais je rassure tout le monde, jamais, j'ai pas jamais eu d'intention suicidaire. C'est ce que j'ai vécu pendant 8 mois. Je veux pas bassiner vos auditeurs avec ça, mais je souhaite ça à personne. Et vous savez, quand j'étais en garde à vue dans ma cellule, c'est compliqué parce que vous êtes enfermé. Et je me disais à moi-même, n'oublie pas, pense à ce que tu as vécu pendant 8 mois, ça peut pas être pire. Et à chaque fois que j'ai un moment de faiblesse, à chaque fois que j'ai un moment de déprime ou de baisse de morale, je pense à ça. Et je vous assure qu'en fait, il peut pas m'arriver pire. Et que ça m'a donné une force incroyable. Parce que c'est une telle injustice. Et là encore, quand je pense à Mélanie Maupa, c'est une telle injustice. Quand je pense à Maxime Beltra, c'est le fils de Frédéric Beltra qui est décédé dans leur salon en quelques heures. Mais je me dis qu'en fait, mon combat, il est noble. Et qu'il faut aller, il faut que j'aille au bout. Et c'est ça qui fait qu'en fait, toutes les critiques ne m'atteignent plus. Les insultes, les menaces. Ils peuvent me mettre en garde à vue tous les 4 matins. Ça ne fera rien, ça ne changera rien à ma décision d'aller au bout pour avoir la vérité. J'ai besoin en fait de cette vérité. J'ai besoin pour pouvoir même un jour le dire à ma petite fille. Ma petite fille qui a 6 ans, elle devrait aujourd'hui être avec sa grand-mère. C'est pas le cas. Donc, je suis serein. Voilà, ça m'a apaisé en fait. Vous savez, quand elle est partie en fait, j'étais soulagé. Mais c'est affreux en fait de fermer les yeux de son épouse dans le salon où vous avez vécu les fêtes d'anniversaire, les Noëls, des fêtes de famille, où vous avez le médecin qui au téléphone vous dit, vous savez. Pour qu'elle ait un joli visage, il faut lui serrer, mettez-lui un torchon autour de la tête pour que la mâchoire reste fermée. Vous voyez, c'est des choses comme ça que j'ai vécu. Vous vous rendez compte quand mon fils, parce que ce soir-là, je me suis endormi. C'est mon fils qui m'a réveillé en me disant « Papa, maman, c'est fini ». J'ai même pas pu le préserver de ça. C'est-à-dire que c'est mon gamin de 30 ans qui a dû supporter de voir sa femme, ma femme, sa mère, morte dans son salon. Donc, en fait, je vais leur faire payer par la justice tout ça. Parce qu'on ne méritait pas ça, et Morissette, qui était pleine de vie, ne méritait pas ça. Donc, là, vous voyez, les larmes que j'ai, en fait, c'est des larmes de... pas de haine, mais c'est des larmes de détermination. Et j'irai au bout. Et ils peuvent continuer de me harceler, de me menacer, de m'insulter. Pour ma petite fille, j'irai au bout. Et si c'est pas moi qui va au bout, ce sera mon fils. C'est intergénérationnel maintenant, ce combat. Et tant qu'on n'aura pas obtenu des réponses, croyez-moi, nos enfants, nos petits-enfants continueront de poser des questions.
Mais Marc Doyer, merci évidemment de ce témoignage qui est plus qu'émouvant. À vos côtés dans Vérity France, il y a d'autres gens qui ont vécu catastrophe, le même drame. Vous avez évoqué certains d'entre eux. Aujourd'hui, cette association, comment faire pour y adhérer? Cherchez-vous des adhésions? De quoi avez-vous besoin?
Alors, on n'a pas d'adhésion parce qu'en fait, on n'a pas voulu dépendre de quoi que ce soit. On a voulu garder notre liberté. Donc, il faut aller sur Vérity France. Vous recherchez Vérity France et vous nous trouverez. Ensuite, il faut surtout témoigner. Il faut maintenant que j'ouvre la voie. Si vous jugez que c'est nécessaire, engagez vous-même des procédures. Il faut aller voir des avocats. Et voilà. Et le combat, il faut qu'il soit mené comme ça. On ne veut pas d'argent à Vérity France. Parce qu'en fait, on veut garder notre liberté. Voilà, c'est important de garder sa liberté. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais non plus fait d'appel à cagnotte, quoi que ce soit. J'ai jamais monétisé quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je veux rester libre. Et donc, voilà. Pour nous aider, il faut témoigner, il faut continuer de nous soutenir. Il faut parler. Je m'adresse aux professionnels, je m'adresse aux policiers, je m'adresse aux hommes politiques, je m'adresse aux médecins, je m'adresse à la justice. Si vous savez, si vous avez vous-même été victime, maintenant, il faut parler, en fait. Pour nous aider, il faut libérer la parole. Il ne s'agit pas de dire que toutes les maladies, c'est le vaccin qui en est responsable. Mais à chaque fois que c'est le cas, il faut en parler, il faut oser le dire. Faut pas faire comme Christine Kelly, que je salue, là, mais qui a dit « Ah bah oui, mais on pouvait parler de tout, mais sauf du Covid et pas des effets secondaires. » Et elle a osé le dire là, maintenant, mais c'est bien. Mais peut-être que si elle, d'autres journalistes, avaient osé le dire avant, ça aurait libéré la parole et ça aurait évité que des gens se fassent insulter, traiter de complotistes, d'antivax, etc., à tort.
Merci beaucoup Marc Doyer pour ce témoignage et pour le combat que vous menez. Et je n'ose pas vous dire à bientôt, mais évidemment nous suivrons la manière dont notamment en mai le procès contre Pfizer va pouvoir commencer. Merci beaucoup et à bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Voilà, dans quelques instants, il y aura la chronique de Pascal Pointu et aussi le débattons-en avec Romain Dominati sur Milei. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'actualité avec Magda.
On apprenait hier le nom de notre nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard, une macroniste de 71 ans. Elle succède à Rachida Dati et voyant le bon côté des choses, en un an, elle ne pourra sans doute pas faire trop de dégâts. Du côté des municipales, tout d'abord à Marseille, la candidate LR macroniste Martine Vassal s'effondre complètement dans les sondages. À Nice, après plusieurs mois d'omerta, les premières enquêtes d'opinion sortent et sont particulièrement favorables à Éric Ciotti. Et puis non loin à Menton, bonne nouvelle, la candidate RN Alexandra Masson est elle aussi donnée gagnante. Et au Havre, on ne lâche pas la bonne humeur puisque c'est Édouard Philippe qui serait donné perdant. Et enfin, du côté de l'Ukraine, début mars aux Émirats Arabes Unis, une nouvelle réunion serait prévue entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Évidemment, la grande absente de ces discours est l'Europe, même pas conviée pour parler de l'avenir de son continent. Et nous célébrons en ce 27 février Sainte Honorine et Saint Léandre, qui étaient évêques de Séville, et Saint Thaumaturge, frères de Saint Fulgence et Saint Isidore. Et sous son épiscopat se détermina au VIe siècle la destinée chrétienne de la péninsule ibérique.
Bien, parfait, une belle famille. Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons justement débattre du miracle ou du mirage argentin avec Romain Dominati. Bonjour Romain Dominati.
Bonjour.
Alors, vous êtes le cofondateur du parti miléiste. Avant de rentrer vraiment dans l'examen des très bons résultats de l'économie argentine, dites-nous ce que c'est que ce parti miléiste.
Alors, vous l'avez peut-être remarqué, on a justement changé de nom. On s'appelle simplement les miléistes français, pour éviter toute confusion, car nous ne sommes pas un parti. Donc c'est avant tout une page sur X, donc Twitter, ou sur Facebook, Insta, sur laquelle on relaie les nouvelles venues d'Argentine suite aux réformes du président Milei. Et on en profite également pour faire l'analyse quotidienne de ce qui se passe en France et de à quel point on pourrait s'inspirer des réformes libérales de Milei pour redresser la France.
Voilà, eh bien, les réformes libérales de Milei, c'est vraiment un traitement de choc. Alors, les résultats sont tombés. Voilà, on nous apprend que il y a 4,4% d'augmentation de la croissance. Ce sont des chiffres, évidemment, qui feraient rêver en France. Néanmoins, est-ce qu'il s'agit d'un véritable miracle ou est-ce qu'il s'agit d'un mirage? Est-ce que ce chiffre macroéconomique suffit à expliquer que le pays va très bien et pour longtemps, ou est-ce qu'il y a des nuances à apporter?
Alors, j'ai envie de dire, c'est ni un miracle ni un mirage. C'est pas un mirage parce que c'est bien réel et que effectivement le pays se redresse à vitesse grand V. Et c'est pas un miracle parce que tout simplement, quand on applique des mesures libérales dans un pays ultra collectiviste, eh bien, forcément, les résultats économiques se font sentir très vite. Donc, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est vraiment presque scientifique. Quand on laisse les gens créer de la valeur et respirer un peu et qu'on enlève de la bureaucratie, des normes, de la dépense publique et des impôts, eh bien, tout d'un coup, comme par magie, le pays se relève. Donc, c'était attendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé cette page dès l'élection de Milei, puisque Personnellement, je connais bien l'Argentine. J'ai vécu pendant 7 ans. J'ai encore un business là-bas. Donc, je sais à quel point le pays est sclérosé par la bureaucratie. Et donc, je savais que si Milei faisait qu'un dixième de ce qu'il avait annoncé, déjà, il y aurait des résultats. Donc, il fait bien plus qu'un dixième puisqu'il fait quasiment tout. Donc, effectivement, le pays change très rapidement. Et quand je dis que ce n'est pas un mirage, c'est parce que ça se retranscrit dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on a vu la pauvreté chuter. Elle est passée d'environ 50% à 30%. Y a l'UNICEF qui a fait son dernier rapport qui date déjà du mois d'août, donc les résultats doivent être encore meilleurs aujourd'hui, mais qui pointait que 2,5 millions d'enfants sont sortis de la pauvreté. Les exportations battent des records dans absolument tout, le blé, le pétrole, les minerais, etc. Et effectivement, le pouvoir d'achat augmente rapidement parce que l'inflation a été divisée par 10. Donc tout ça, c'est des changements très concrets dans le quotidien des Argentins. Et c'est pour ça qu'ils remercient Milei d'avoir entrepris toutes ces réformes.
Alors, ce sont des résultats très concrets. En même temps, on nous explique que à la fin de l'année 2025, la consommation des ménages a chuté de 2,8% par rapport à la période de l'année, la même période de l'année précédente, et encore de 1,4% en décembre. Et le fait qu'il y ait des milliers d'emplois qui aient été supprimés dans la fonction publique, toute cette libéralisation quasi immédiate de plusieurs marchés a malgré tout fragilisé une partie des ménages et de la population argentine.
Non, pas du tout. Ce sont des chiffres parfaitement logiques et qui sont même, je trouve, très faibles, puisque en fait, avant, en Argentine, il y avait une inflation très très forte. Donc vivre avec une inflation très forte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en tant que Français ou Européen. C'est qu'en fait, l'argent brûle les doigts. Donc vous recevez votre chèque, votre salaire, il faut absolument tout dépenser tout de suite, parce qu'on sait que 10 jours plus tard, ça vaudra beaucoup moins cher. Donc ce que faisaient les Argentins, c'est que ils allaient au supermarché, ils achetaient tous les produits non périssables, le sucre, l'huile, le lait, etc., tout ce qu'ils pouvaient acheter. Et à un moment, bon, ben, on peut pas tout dépenser d'un coup. Donc, ils allaient au resto, ils faisaient la fête. Donc, pendant les 15 premiers jours du mois, Buenos Aires, c'est une ville extraordinaire, ça bouillonne de partout. Et après, il n'y a plus d'argent, tout le monde a tout claqué. Et donc, on se serre la ceinture pour tenir jusqu'au mois suivant. Ce qui fait aussi que le marché du crédit n'existe pas. Tout simplement, il n'y a pas de crédit pour les ménages en période de forte inflation comme ça. Donc, il n'y a pas d'épargne. Donc, ça veut dire que la consommation est forcément à 100% de tout l'argent qui est donné en salaire. Quand l'inflation commence à disparaître, les gens commencent à réfléchir à long terme, se disent, tiens, bah, si je mettais un peu de côté pour m'acheter une machine à laver dans 3 mois ou une voiture dans 6 mois, etc. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit. Effectivement, les gens mettent de côté. Donc, la consommation baisse, mais...
Alors, bon, on a un petit accident.
Ah, pardon.
Voilà, en fait, on a perdu 5 secondes de votre raisonnement. Vous disiez, la consommation baisse parce que l'épargne augmente. L'épargne augmente parce que l'inflation a diminué. Autrement dit, ce qu'on met en avant parfois dans la presse économique française comme étant un mauvais signal et une nuance à apporter aux politiques miléennes sont en fait la conséquence logique, c'est-à-dire, si la consommation était à ce point-là excellente, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire qu'à consommer. Voilà, on a changé de paradigme.
C'est ça. Bon, la presse économique française cherche toujours la petite bête, mais elle ne peut pas la trouver parce que tout simplement, elle n'existe pas. Évidemment, on imagine bien que... Ils sentent bien que si une politique milléiste était appliquée en France, ils seraient tous menacés de perdre leur emploi puisqu'ils sont nourris par les subventions publiques. Donc, on a fait de Milei un fou, un diable même, dans la presse occidentale. Puis finalement, les résultats sont là, les Argentins l'adorent. Il va peut-être être temps de se réveiller, de prendre exemple sur ce qui fonctionne.
Alors, il y a des secteurs qui, effectivement, explosent littéralement. Voilà, le secteur agricole, c'est une croissance de 32% en décembre 2025 sur un an. Donc, évidemment, ça fait rêver en France. Plus 18% pour la pêche, 14% pour la finance. Tout ça est cohérent avec ce que vous nous dites, évidemment. Si on commence à épargner, bah, forcément, le secteur financier commence à mieux se porter. En revanche, donc, l'hôtellerie-restauration, voit son marché se contracter. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure sur Buenos Aires. Si effectivement l'idée c'était de se ruer au restaurant une fois qu'on avait bourré les placards de la cuisine de sucre et d'huile, il est normal que maintenant on aille moins souvent au restaurant puisque l'argent continue à avoir de la valeur de semaine en semaine. Un indice qui, lui, serait peut-être plus préoccupant, c'est le fait que l'industrie manufacturière, elle aussi, est en train de voir une baisse d'activité. Est-ce que véritablement l'agriculture suffit à tirer tout le pays vers le haut ?
Alors, c'est intéressant. Je ne connaissais même pas, vous êtes bien renseigné. Hein. Je ne connaissais pas ces chiffres, mais je les comprends bien. Il se trouve que j'ai un hôtel à Buenos Aires, donc je peux vous confirmer qu'effectivement, l'hôtellerie, ça s'est un peu contracté. Parce qu'avant, on avait énormément de clients argentins qui venaient d'autres villes que Buenos Aires, passer le week-end dans la capitale ou autre. Aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, on n'en a quasiment plus. Donc, ce sont les touristes qui font vivre les hôtels pour la raison qu'on a évoquée, c'est-à-dire que les gens ne se payent plus un petit week-end en amoureux parce qu'ils ont d'autres opportunités pour investir leur argent. Et pour le secteur manufacturier, effectivement, en fait, l'Argentine est un pays complètement fermé. Il y avait des droits de douane très très élevés qui empêchaient tout produit étranger de rentrer, sauf en payant des droits de douane très très forts. Quelques produits chinois parvenaient à rentrer, mais il n'y avait quasiment aucun produit européen, aucun produit américain. Ce qui fait qu'il y avait des industries qui étaient maintenues artificiellement en vie en Argentine, notamment je pense au textile. Les vêtements coûtaient très très cher, ils étaient produits sur place, ils coûtaient vraiment très cher. Il n'y a pas Zara, H&M, tout ça, ça n'existe pas. Donc, les Argentins payaient très cher des produits de très mauvaise qualité. Et aujourd'hui, en effet, on observe un changement structurel de l'économie argentine parce que quand on fait des réformes d'une telle ampleur, évidemment, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, ceux qui étaient maintenus en vie grâce à des droits de douane ou à des subventions, à des aides de l'État ou autres, grâce à des monopoles indus, en gros, sont effectivement en train de se prendre la concurrence internationale de plein fouet, donc je pense notamment au textile, et ils vont pas pouvoir, soit ils vont s'adapter, s'améliorer, baisser leurs prix, changer leur production, soit ils vont faire comme dans beaucoup de pays, c'est-à-dire ils vont laisser les produits qui viennent de ces grandes enseignes que j'ai évoquées ou de Chine, prendre le marché et se reconvertir dans un autre domaine dans lequel les Argentins sont plus performants. Alors, ce sera peut-être effectivement l'agriculture, les minerais ou autres. Mais en tout cas, c'est également parfaitement logique pour connaître le pays de voir ce changement.
Alors, Romain Dominati, je rappelle que vous êtes membre des milléistes français, des gens qui appellent en fait à ce que la France applique les mêmes méthodes que Javier Milei. Voilà, bon, c'est un vœu pieux pour le moment. Vous venez de citer les minerais. Justement, on est en train d'assister sans doute à une grande dérégulation environnementale en Argentine. Et les 17 000 glaciers argentins sont protégés par la loi, paraît-il, j'ai appris ça récemment, tout comme les sols congelés des zones périglaciaires. Or, elles regorgent de minerais et on va vraisemblablement, avec Javier Milei, autoriser l'exploitation de toutes ces mines quasiment à ciel ouvert. Est-ce une catastrophe environnementale, comme le redoutent les gens de Greenpeace, ou au contraire, est-ce qu'il est légitime en fait, d'aller exploiter l'ensemble de ces minerais voilà.
Je pense que les Argentins ne font pas n'importe quoi, mais qu'ils vont d'abord répondre à leurs besoins urgents, c'est-à-dire manger. Quand on a 30% de pauvreté dans un pays, on ne peut pas se permettre de penser à l'environnement. On pense d'abord à son estomac, le toit au-dessus de sa tête et ses enfants. Donc, pour résoudre ces problèmes urgents, il faut créer de la richesse. Il se trouve qu'effectivement, le sol argentin est très riche. Il serait idiot pour eux de s'en passer. Et d'ailleurs, ils ne comprendraient même pas pourquoi ils s'en passeraient alors que d'autres pays, dont les nôtres, l'ont fait bien avant eux. pour se développer. Donc, une fois qu'ils seront prospères, je pense que les Argentins, qui sont très attachés à leur environnement et leur pays, les paysages naturels de leur pays, ne voudront pas vivre dans un endroit pollué, sale, moche, etc. Donc des règles de base seront respectées. Après, il faut aussi imaginer que l'Argentine, c'est un pays immense, entre 5 et 6 fois la taille de la France, moins peuplé, avec environ 40 millions d'habitants. Donc, vous avez des zones à perte de vue où il n'y a personne, quoi. C'est des déserts où il n'y a vraiment rien. Et de nombreuses ressources naturelles sont dans ces zones-là. Donc, effectivement, c'est un impact qui est très mesuré. Encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui a envie de vivre dans une décharge. Donc, d'abord, les gens pensent à croître, et puis ensuite, ils pensent à vivre dans un endroit beau et sain, et le schéma sera à nouveau respecté dès que l'Argentine sera prospère.
Et cette Argentine prospère, il reste quelques années à Javier Milei pour l'établir. Est-il déjà en train de songer aux prochaines élections ?
Alors, je suis pas dans sa tête.
Ma question, évidemment, j'aurais préféré la lui poser à lui, mais d'ailleurs, Javier, si vous nous écoutez, n'hésitez pas, venez sur Radio Courtoisie. Mais pour le moment, on sait qu'il a été élu, ça a été à moitié une surprise, à moitié annoncé. Il a gagné des élections qui seraient l'équivalent des élections à mi-mandat pour les Américains. Là aussi, on annonçait sa défaite finalement. Ça a été une victoire. Est-il, hélas, comme tout président démocrate, obsédé par sa réélection, ou considère-t-il qu'il a lancé quelque chose qui ne peut pas être arrêté, en fait ?
Non, oui, je pense que c'est clairement la deuxième option. Il a réussi à transformer, en fait, la mentalité des Argentins, à leur faire comprendre ces principes qu'il a martelés pendant 10 ans à la télé, à la radio. Les gens sont maintenant convaincus qu'ils ont pris la bonne direction et qu'ils ne veulent absolument pas revenir sur le modèle antérieur qui était plein de corruption, d'étatisme, de coercition, de socialisme. Donc ça, ils en sont sortis. Donc sa réélection, bon, je ne veux pas m'avancer sauf catastrophe, elle est quasiment assurée vu les taux de popularité qu'il affiche. Et à chaque fois qu'il y a une élection locale, son parti gagne largement. Il a donc un deuxième mandat devant lui, effectivement, pour continuer à mener à bien ses réformes. Il a également annoncé qu'à la fin du deuxième mandat, par contre, on n'entendrait plus jamais parler de lui, qu'il se retirerait avec ses bouquins d'économie et qu'il retournerait dans sa vie discrète et civile. Après, j'espère qu'en changeant ses mentalités, il a formé toute une nouvelle génération d'Argentins qui auront envie de s'investir pour poursuivre cette transformation du pays et en faire ce qu'il annonce tout le temps, le pays le plus libre du monde.
Ah, cette liberté, c'est d'abord une liberté économique et on sait que c'est son cheval de bataille. Est-ce aussi la liberté d'expression et l'ensemble des libertés publiques auxquelles on est attaché en France ?
Oui, on était attaché. Oui, tout à fait, en très grande partie, hormis quelques petites différences culturelles, mais sinon, effectivement, c'est une liberté sur tous les plans.
Comment l'opposition argentine réagit-elle à ces succès ?
Évidemment, assez mal. Ils ne sont pas très contents. Ils ont perdu leur gagne-pain. C'était une classe politique vraiment très largement corrompue et de manière éhontée. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour s'accrocher à leur siège et à leur rente, mais petit à petit, ils sont en train de disparaître. Il y a eu très peu, finalement. Là, en fait, Milei vient de passer une grande réforme du droit du travail. Elle avait été annoncée dès le départ, mais il n'avait pas la majorité parlementaire, comme vous l'avez souligné jusqu'à récemment. Et donc, la réforme vient seulement d'être votée. Donc, ils ont appelé un blocage général du pays, les syndicats, les partis de gauche, etc. Et en fait, ça a pas marché. Il y a eu évidemment quelques manifestations, mais il y a que 12% des entreprises qui ont suivi l'appel au blocage général. Les transports ont continué quasiment normalement et la réforme est passée. Donc, clairement, l'opinion a complètement basculé. Et j'imagine que quand on est dans le camp de ceux qui sont en train de perdre, ça doit faire un petit peu mal, mais voilà, c'est comme ça.
Romain Dominati, vous avez donc vécu 7 ans en Argentine, vous êtes revenu en France, vous avez conservé des intérêts dans le pays argentin, vous nous parliez tout à l'heure de votre hôtel. Aujourd'hui, la question se pose, restez-vous en France, repartez-vous là-bas
C'est une bonne question. Non, pour l'instant, je reste en France parce que j'aime la France et que j'ai envie d'y construire des choses aussi pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Mais j'avoue que c'est confortable de savoir que j'ai un deuxième pays au cas où. Mon premier enfant est né en Argentine, donc en plus il est argentin, ce qui donne possibilité à toute la famille de le devenir. J'ai un business là-bas, j'ai un réseau, j'ai des amis. C'est vrai que c'est pas désagréable d'avoir un plan B dans un pays qui est en plus en train de monter en flèche. Donc, je le garde dans un coin de ma tête, on va dire.
Alors, une dernière question. L'Argentine donc fait partie de ces pays qui ont basculé à droite et que la gauche française considère avec horreur. Les relations diplomatiques entre la France et l'Argentine sont-elles bonnes ?
Oui, il se trouve que oui, car il y a de nombreux intérêts français en Argentine, notamment bon la grande distribution avec Carrefour qui est très bien implantée, surtout la production vinicole. Il y a, vous savez, il y a énormément de production de vin en Argentine, en région de Mendoza, et en gros les deux tiers des exploitations appartiennent à des groupes français. Et puis il y a énormément d'autres intérêts énergétiques, etc. Ce qui fait que effectivement, par mes quelques contacts, j'ai appris que le président Milei faisait tout pour garder une bonne relation diplomatique avec la France et même avec Emmanuel Macron, malgré des divergences évidentes d'un point de vue idéologique. Alors, il n'a pas pu s'empêcher quand même lors de leur dernière rencontre d'offrir à Macron un tas de bouquins d'économie style « Tiens, lis ça, tu apprendras peut-être quelque chose ». Mais en tout cas, il fait tout pour garder d'excellentes relations avec la France parce que c'est son intérêt et c'est l'intérêt des entreprises argentines.
Eh bien, merci beaucoup Romain Dominati. La prochaine échéance électorale, c'est
Ça va être les élections présidentielles. Il y aura à la fois la deuxième partie des élections du Congrès et du Parlement et les élections présidentielles qui se tiendront donc maintenant dans 2 ans.
Bon, eh bien, on refera le point avant sur les succès de Javier Milei. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et donc à bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci de m'avoir invité.
Ligne droite.
Et Ligne droite, c'est avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et nous allons parler avec lui des élections municipales, puisque évidemment, il y a les grandes villes qui passionnent tout le monde, Le Havre, Marseille, Lyon, Paris. Mais il y a aussi toutes ces communes rurales et la manière dont les lois qui ont évolué en matière d'élections municipales, d'une certaine manière, défavorisent les campagnes par rapport aux villes. Bonjour Pascal Pointu.
Bonjour Richard, vous avez très bien résumé la situation. Hein. Une loi de mai 2025 va priver nos petites communes, c'est-à-dire celles de moins de 1000 habitants, d'un droit séculaire et extrêmement apprécié dans nos campagnes, c'était celui de panacher les listes. Donc le panachage, qu'est-ce que c'est ? Le panachage, c'est de rayer des noms sur une liste parce qu'on estime que cette personne n'est pas compétente ou cette personne n'a pas vraiment d'envie d'être là, mais juste d'avoir son nom, ou alors de mettre des anciens candidats ou des anciens maires et de rajouter des noms, parce qu'on estime que ces gens-là, même s'ils ne se sont pas présentés, étaient essentiels pour la vie d'une commune. Donc, nous avons eu des députés et des sénateurs à grande majorité urbaine. Il faut quand même savoir une chose, c'est que 70% du territoire français est composé de petites communes de moins de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, il y a 24 000 communes de moins de 1000 habitants. Et dans ces 24 000 communes sur 36 000 en France, sur ces 24 000 communes, la moyenne du nombre d'habitants, c'est 355 habitants. Donc si vous voulez, on est en train de tuer le suffrage universel, parce que qu'est-ce qui va se passer aux prochaines municipales? Il va y avoir des gens qui vont continuer de panacher, parce que pour eux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, on a voté une loi contre leur propre avis, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le droit de se défendre, on n'a même pas eu le droit de choisir. On nous a imposé une loi qui interdit le panachage, et donc il va y avoir des bulletins nuls, puisqu'il y aura des rayures, et il y aura aussi une forte abstention, parce que les gens ne se sentiront pas concernés dès le moment que vous ne les écoutez pas. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais de surcroît, dans cette loi-là, on interdit maintenant le remboursement de la propagande électorale, c'est-à-dire les affiches, les professions de foi, les bulletins de vote, pour les communes de moins de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'auparavant, si vous faisiez 5% dans l'urne, nous vous remboursions les frais engagés. Et ben maintenant, c'est fini. Hein, donc, on va interdire à des petites communes avec des candidats qui ne sont pas forcément des gens qui ont le patrimoine de Monsieur Bolloré et qui vont se retrouver à devoir payer de leur propre poche une campagne électorale pour expliquer aux concitoyens ce qu'ils ont envie de faire pour leur commune. On marche sur la tête. Encore une fois, on marche sur la tête. J'ai écouté avant-hier la ministre déléguée à la ruralité, hein, qui... quand je la vois, j'ai l'impression de voir Désir Laisse, ouais. Voyage. Et quand j'écoute cette ministre parler de la ruralité, il me semble quand même qu'il faudrait quand même qu'elle atterrisse à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que pour elle, on ne vote pas pour des gens dans les communes, on vote pour un projet. Bien évidemment qu'on vote pour un projet, mais d'abord, le projet, il est porté par des gens avec qui on se sent en confiance. Moi, je vois, par exemple, dans ma commune où je suis, il y a à peine 300 habitants, il y a 15 hameaux, hein, et il y a des hameaux qui sont à plus de 10 kilomètres du centre du village. On nous oblige, les escrologistes nous ont obligés d'avoir un raccordement des eaux usées à un système collectif, public. Comment voulez-vous faire quand vous avez dans un hameau 5 maisons dont 3 sont habitées à l'année et 2 autres sont des résidences secondaires? Imaginez un peu le coût qu'il faudrait pour pouvoir joindre tous ces hameaux au réseau d'eau usée. Et donc, à un certain moment, si vous voulez, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, dans ma commune, ça fait 3 ans que la mairesse cherche, comme elle peut, des financements pour créer une salle des fêtes. Voilà, ça fait 3 ans que les conseils municipaux sont le titre du jour. C'est comment qu'on peut faire pour créer une maison des associations, une salle des fêtes. On n'y arrive même pas. Nous sommes très loin des discussions parisiennes, des problèmes de riches, des grandes villes. Nous sommes là pour défendre des fois 1 ou 2 projets par an. Et on n'arrive même pas à se faire entendre. Et quand on voit avec quelle imposture, avec quelle inutilité la ministre de la Ruralité nous parle de ruralité en nous méprisant et en nous disant eh ben, « vous voterez comme on vous dira de voter et vous n'aurez plus le droit au panachage, il faut y arrêter un moment ». J'estime que la ruralité, le panachage, c'est quelque chose de vital parce que nous avons envie d'avoir au sein de nos mairies, des gens qui défendent réellement nos communes et qui ne sont pas là pour essayer de se montrer, pour essayer ensuite de passer l'échelon supérieur, député, conseiller départemental ou ainsi de suite. Nous, ce que nous voulons, c'est des gens qui soient efficaces sur les territoires. Et pour qu'ils soient efficaces, il faut que l'électeur ait le droit de choisir pour qui il veut voter.
Et effectivement, il faut que l'électeur puisse choisir pour qui il veut voter, sans compter cette chose formidable dans le panachage, c'est on échappe au système des partis et on choisit les gens parce qu'on les connaît, on choisit les gens pas en fonction de leur étiquette, mais on choisit les gens parce qu'on sait qu'ils sont compétents, et donc c'est une véritable démocratie directe, et on comprend qu'à Paris, une véritable démocratie directe, ce soit quelque chose qui soit très compliqué d'imaginer, de même qu'on comprend que le fait de supprimer le remboursement des frais, ça permet en fait de favoriser les partis et le parachutage des partis plutôt que les candidats locaux. Merci beaucoup Pascal Pointu de nous avoir alerté sur cette dégradation démocratique supplémentaire et je vous dis à la semaine prochaine.